Jusqu'à 22h, Asian Bubble. Entrez dans la bulle de Loli et découvrez toute la culture asiatique sur Neptune FM.
Kaosu, bonsoir, bienvenue sur Neptune FM pour cette nouvelle émission d'Asian Bubble. Cette semaine, je vais vous parler du groupe Man with a Mission. On parlera ensuite de trois mangas des éditions Kaze et Crunchyroll. Donc on aura la chronique du volume 9 de Ultimo, la chronique du volume 28 de Blue Exorcist et la présentation du manga Babel The New Akeden. On aura ensuite un point sur les sorties manga de la semaine, on parlera culture avec le nouvel an au Japon et on aura également une actualité au Japon avec le mont Fuji qui est privé de neige fin octobre, ce qui est jamais vu depuis 130 ans. Et on finira donc l'émission avec une news musicale concernant la chanteuse japonaise Sayuri qui est malheureusement décédée. On commence donc avec la première chanson de l'émission, c'est Sai Identity de Gesu no Kiwami Otome et on reviendra juste après pour la présentation du groupe Man with a Mission. C'était Gesu no Kiwami Otome avec la chanson Sai Identity. On passe maintenant à la présentation du groupe Man with a Mission. Donc c'est un groupe japonais de rock alternatif qui est en activité depuis 2010 chez Tristan Entertainment. Il se compose de 5 membres, donc on a Spear Rib à la batterie, Janken Johnny à la guitare et au chant, Tokyo Tanaka au chant, DJ Santa Monica en tant que DJ et Kamikaze Boy à la basse et au chœur. Donc Man with Mission, également appelé MWAM, est un quintet talentueux qui cultive le mystère mais aussi l'originalité en portant des têtes de loup. Avec des mélodies puissantes et accrocheuses, ce groupe japonais évolue vers des sonorités mixtes, majoritairement du rock alternatif teinté de chants rap. Leurs influences viennent des groupes tels que les Red Hot Chili Peppers, The Smashing Pumpkins ou encore Rage Against. Avec le single Never Fucking Mind The Rules sorti en avril 2011, Man With A Mission fait ses débuts en major et sort son premier album éponyme Man With A Mission. En concert, le groupe est souvent accompagné de Eddie Vedder, un mystérieux guitariste, qui n'est pas vraiment un membre officiel, donc il porte un masque blanc et s'expose rarement devant le public pendant les concerts. Il a également composé de nombreuses chansons pour le groupe. Donc côté discographie, ils ont sorti pas mal de choses. On a 9 albums, le premier Man With A Mission le 8 juin 2011, et le dernier Break and Cross The Walls 2, qui est sorti le 25 mai 2022. Ils ont sorti 4 mini-albums, le premier Welcome to the New World qui est sorti le 3 novembre 2010 et le dernier One Wish qui est sorti le 10 février 2021. On a un remix album Man with a Remix Mission qui est sorti le 13 mai 2020, deux best albums 5 Years, 5 Walls, 5 Souls qui est sorti le 1er janvier 2015 et Man with a Best Mission qui est sorti le 15 juillet 2020. On a une compilation B-side Man with the B-sides and Covers Mission qui est sortie le 1er avril 2020. Ils ont également sorti 19 singles, le premier Don't Close Yourself qui est sorti le 15 mars 2010 et le dernier Kizuna no Kiseki Koi Kogare qui est sorti le 31 mai 2023. On a ensuite un digital album live, Connect with 3.11 Live, qui est sorti le 27 octobre 2021. Ils ont également sorti 26 singles numériques. Le premier, Wake Myself Again, qui est sorti le 1er juillet 2013. Et le dernier, I'll Be There, qui est sorti le 25 avril 2024. Ils ont également sorti 3 tribute albums. Le premier, Nevermind Tribute, le 4 avril 2012. Et le dernier, 25, A Tribute to Dragon Ash, qui est sorti le 22 février 2023. Ils ont participé à 4 compilations, la première Rock the Best qui est sortie le 27 juillet 2021 et la dernière JR Skiski 13th Anniversary Collection qui est sortie le 22 décembre 2021. Ils ont participé à 4 OST, donc notamment Mobile Suit Gundam Iron-Blooded Orphans en 2016 et Vinland Saga en 2020. Donc ils ont interprété également 13 génériques d'animés. On a Database en featuring avec Takuma pour l'anime Log Horizon en 2013, Seven Deadly Sins pour l'anime Nanatsu no Taizai en 2015, My Hero pour Inuyashiki en 2017, Winding Road pour Golden Kamuy en 2018, Dark Crow pour Vinland Saga en 2019, Merry-Go-Ran pour Boku no Hero Academia la saison 5 en 2021, Blaze pour Mobile Suit Gundam Teketsu no Orphans en 2022, ainsi que Koi Gokare et Kizuna no Kiseki pour Kimetsu no Naiba Katanakachi no Satoren en 2023. Ils ont interprété un générique de jeu vidéo Survivor pour Street Fighter V en 2016, 5 génériques de drama avec notamment Evil's Fall pour Border en 2014, Remember Me pour Radiation House en 2019 et I'll Be There pour Believe en 2024. Et pour terminer, ils ont interprété 7 génériques de films. Donc on a notamment Wake Myself Again pour le film Judge en 2013, Dive pour Shinjuku Swan en 2015, Fan You pour Anonymous Noise en 2017, Take Me Under pour Inuyasheki en 2018 et Perfect Clarity pour Inomaru Soul en 2021. Voilà, on va pouvoir s'écouter tout de suite deux chansons de Man With A Mission. On commence avec Winding Road qui a servi de premier opening pour l'anime Golden Kamuy et on viendra juste après pour la chronique du volume 9 de Ultimo. We'll be right back.
Asian Bubble. Découvrez toute la culture asiatique sur Neptune FM.
They can be hard-hearted. さえもない夢を見て誰よりも傷ついた 関係がないことと言って 逃げ出した髪の見物 I couldn't be your shell そんな風にはできない Holding my strength and weakness さあこっからまだ始める I'm standing by myself Face the world to grieve no more The carousel goes up and goes down
The carousel runs around
Your existence sparking more than the one, the one, the one else
Many go round, top it all round
Donc c'était Man with a Mission avec la chanson Merry Go Round qui a servi de deuxième opening pour la saison 5 de Boku no Hero Academia. On passe maintenant à la chronique du volume 9 de Ultimo. Donc je rappelle que c'est un shonen de genre aventure fantastique qui a été écrit par Stan Lee, dessiné par Takai Hiroyuki, traduit par Sylvain Chollet et prépublié dans le Jump SQ. La version japonaise est parue aux éditions Shueisha avec 12 tomes qui terminent la série. Et la version française est parue aux éditions Kaze dans la collection Shonen Up avec 12 tomes également. Ce volume 9 est sorti le 12 juin 2013 au prix de 7,15€. Le résumé de ce tome, la veillée funèbre d'Echo officialise le changement de maître du plus intègre des doji, désormais contrôlé par Makoto. Grâce à la manipulation mémorielle de Regula, la fille du criminel Dunstan infiltre le camp du bien à l'insu de ses participants et de Yamato, fou amoureux d'elle. René, de son côté, compte user des facultés télépathiques de Jealous pour recruter des maîtres de doji du mal plus puissants. Mais Akitsu use de son kendo et de Slow le vertueux pour s'opposer à celui qui, autrefois, comptait parmi ses amis. Maintenant que le père Echo est mort, Yamato et ses compagnons doivent prendre sur eux et ne surtout pas céder à la vengeance s'ils veulent l'emporter sur la bande du mal. Et ça s'annonce beaucoup plus dur que prévu alors que Jun vient de transpercer perdonner le Karakuri Doji de Kiyose Matsumoto avec par-dessus le marché René et Jealous qui s'invitent à la partie. Mais alors que les choses s'annoncent très mauvaises pour nos héros, Akitsu, Ohotake et Slow débarquent avec leur fusion osmotique à 95% qui permet à Akitsu de revêtir l'Icon Suit, une sorte de power-up ultime accessible à la condition que le maître et son doji soient pleinement synchro. Du côté de Vice, Ibari et Gorg se voient forcés d'intervenir contre lui et s'engagent dans un combat qui risque d'être fatal pour l'une des parties. Qui du mal ou du bien triomphera? Eh bien, c'est toute la question. On remonte d'un petit cran avec ce 9e tome, comme si l'auteur avait écouté nos suppliques l'invitant à simplifier ses dessins et son histoire. Surtout, ça va vite et plusieurs combats assez importants se déroulent sans qu'aucun ne soit bâclé. Et conformément à notre intuition lors de la lecture du précédent volume, Jun devrait prendre une place importante vis-à-vis de Vice, même si le pitoyable Kei ne compte pas se laisser marcher sur les pieds comme ça. Hiroyuki Takei aurait-il enfin atteint l'état de grâce des meilleurs tomes de Ultimo? Eh bien peut-être, en tout cas on voit bien que son installation à Los Angeles et surtout sa collaboration avec Stan Lee lui a remis du baume au cœur depuis l'échec de Shaman King qui s'était fini dans la douleur. Dorénavant, il va falloir que Takei s'emploie à approfondir toute la ribambelle de personnages qu'il a créés, ce qui ne sera pas chose aisée, mais on lui fait pleinement confiance. Voilà, donc je rappelle que la série Ultimo était parue aux éditions Kaze, une série terminée en 12 tomes. On va s'écouter tout de suite une autre chanson, c'est Blue Jean de Clay, et on reviendra juste après pour la chronique du volume 28 de Blue Exorcist.
Psycho no kiss yo mou ichido
C'était Glay avec la chanson Blue Jean. On passe maintenant à la chronique du volume 28 de Blue Exorcist. Donc je rappelle que c'est un shonen de genre action, aventure, comédie, drame, fantastique, vie scolaire, surnaturel, qui a été écrit par Kato Kazue et traduit par Sylvain Chollet. La version japonaise est parue aux éditions Shueisha avec 31 volumes, la série étant toujours en cours, et la version française est parue aux éditions Crunchyroll avec pour le moment 29 tomes. Ce volume 28 est sorti le 26 avril 2023 au prix de 7,15€. Le résumé de ce tome, grâce à Yukio, Satan a pu gagner le monde des humains et il a la ferme intention de se débarrasser de tous ses ennemis. Mais les jumeaux, réconciliés et leurs alliés, comptent bien l'empêcher de nuire en l'affrontant enfin directement. Pour l'occasion, Mephisto bat le rappel de nombreux exorcistes, une bataille décisive est sur le point de débuter. Donc la lutte contre Satan est sur le point de débuter. Les démons se sont révélés à l'humanité, ce qui provoque un chaos sans nom à travers le monde, mais les exorcistes de toute la planète se sont rassemblés pour lutter contre le roi des démons et ses sbires. Ils sont aidés par plusieurs des enfants de ce dernier, notamment Rin, qui part affronter son père. Donc un an et demi, c'est le temps qu'il aura fallu attendre pour avoir la suite de cette superbe série. Pour autant, contrairement à d'autres titres qui nous font subir la même épreuve, l'intérêt pour cette œuvre n'en est nullement émoussé. L'auteur nous explique qu'elle a dû faire une pause à cause de problèmes de santé, et on lui souhaite évidemment le meilleur, tout en accueillant ce retour avec le plus grand des bonheurs. D'autant que ce tome s'avère excellent. Le volume s'ouvre sur Shiemi qui tente de soumettre Amaimon, alors que ce dernier se montre supérieur à la jeune exorciste. L'issue laisse peu de place au doute, ce qui permet de rapidement passer à autre chose, et même si cette introduction se montre intéressante, on va préférer plonger dans la bataille opposant les exorcistes du monde entier à Satan et sa horde. On va dans un premier temps avoir un rapide rappel des forces en présence, avant qu'on ne nous expose le plan de bataille des exorcistes. Et autant dire qu'après un an et demi, ce n'est pas du luxe. Bien évidemment, Rin et Yukio vont jouer des rôles essentiels dans les plans pour renverser Satan. Rapidement, les affrontements débutent et on en prend plein la tête. L'auteur choisit de nous présenter ça sous la forme d'une immense bataille entre deux armées, bien qu'elle propose plusieurs focus sur des personnages précis. Si la guerre qui oppose les démons et les exorcistes s'avère passionnante, avec des surprises qui redistribuent les cartes, avec des moments forts qui viennent tout bouleverser, comme l'arrivée de certains rois démons qui lancent des ordres à leur horde de serviteurs, il s'en dégage malheureusement un aspect brouillon qui rend certains passages délicats à déchiffrer, autant dans l'action que dans le dessin. Alors que Kazue Kato nous a déjà démontré un grand nombre de fois tout son talent autant dans les deux domaines. Donc cela ne cache pas pour autant le plaisir de découvrir ce tome, d'autant que la majeure partie de son contenu va s'intéresser à Satan lui-même, et donc à son affrontement contre Rin notamment. L'auteur parvient à la perfection à faire ressentir la dangerosité de Satan, qui est à la fois fascinant et effrayant, en plus de dégager un charisme monstrueux et laisser planer donc une menace folle. Bien évidemment, à l'issue de ce tome, rien ne sera réglé, et c'est tant mieux. On souhaite profiter un maximum de ce climax que l'auteur a préparé longtemps à l'avance. Donc, quoi qu'il en soit, Blue Exorcist confirme son statut de très grande série. Voilà, donc je rappelle que la série Blue Exorcist est à retrouver avec pour le moment 29 tomes de sortie aux éditions Crunchyroll. On va s'écouter tout de suite la chanson In My World de Rookies is Punked, qui a servi de deuxième opening pour l'anime Aono Exorcist. Et on reviendra juste après pour les sorties manga de la semaine.
In my heart is 拭いされない過去の悲しみ偽り心にもないブラスで話して手を伸ばした My life 切り離した額縁の中眺めるように存在証明一切もねかろじてたも自分自身避けて通れない道はいつからかこんなだったそして誰もいなくなった導かれる方に存在証明一切肯定解き放った自分自身避けて通れない道はいつだってこんなだった迷いは消えてなくなった運命なんて草くらえがむしゃらなって Drive for Pride I'll read my world 聞こえる愛の歌歪んだ世界どこか捨て
Donc c'était Rukia's Is Punked avec la chanson In My World qui a servi de deuxième opening pour l'anime Aono Exorcist. On passe maintenant aux sorties manga de la semaine, donc on aura des sorties mercredi 30 octobre avec chez Delcourt Tonkam la sortie du volume 13 de Arifureta de Zero à Hero, le volume 8 de Arifureta Origin qui sera le dernier tome de la série. On aura également le volume 8 de L'Extraordinaire Apothicaire qui sera disponible en édition normale et en édition spéciale. Et on aura également les volumes 15 et 16 de Love Under Arrest, donc le 16e tome qui sera le dernier tome de la série. Aux éditions Casterman, on aura la sortie du volume 2 de la réédition 2024 de Otan de Botchan. On aura la sortie du volume 6 de L'Habitant de l'Infini Bakumatsu. Et on aura le volume 6 de L'Habitant de l'Infini, l'édition Immortelle. Avec enfin chez Casterman donc la sortie du volume 7 de Olympia Kyklos qui sera le dernier tome de la série. Aux éditions Crunchyroll, on aura la sortie du volume 1 de Beyblade X et le volume 1 de Hokuto no Ken, la légende de Jusa. Chez Pika, on aura la sortie du volume 22 de Blue Lock qui sera disponible en édition normale et en édition collector. Chez Panini, on aura les volumes 4 et 5 de la saison 2 de Girls, 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 le volume 8 de Hitokui, le volume 1 de Shibatarian et le volume 30 de Trinity Seven. Chez Keybooks, on aura la sortie du volume 1 de L'Autre Moi du Miroir, le volume 1 de Ne m'oublie pas et le coffret avec les volumes 1 à 3 de Solo Leveling, donc un coffret en réédition. Chez Le Lézard Noir, on aura la sortie du volume 14 de La Cantine de Minuit et aux éditions Soleil, le coffret avec les volumes 4 à 7 de Samouraï Légende. Pour jeudi 31 octobre, ça sera les dernières sorties de la semaine, donc on aura chez Kana le coffret avec les volumes 1 à 5 de Black Butler, le coffret avec les volumes 1 à 5 de Fire Force et le coffret avec les volumes 1 à 5 de Naruto. Chez Comic Coup, on aura la sortie du volume 1 de Crim Game, le volume 7 de Dahlia, l'artisane magicienne, le volume 7 de La Nouvelle Vie de Lily et le volume 6 de Quelle Belle Fin du Monde. Chez Vega Dupuis, on aura la sortie du volume 3 de Distress. Chez Akata, on aura la sortie du volume 1 de Immortalité et Châtiment, qui sera disponible en édition normale et en édition collector. Chez Keyworld, on aura la sortie du volume 3 de Voleur de mon cœur. Et enfin, chez Taifu Comics, on aura la sortie du volume 5 de Whispering You, a Love Song. Voilà, on va pouvoir s'écouter tout de suite une autre chanson. C'est Gobanks avec la chanson I Nikite, I Need You. Et on viendra juste après pour parler culture avec le nouvel an au Japon.
I need you.
Donc c'était Gobangs avec la chanson Ainikite Ainizio. On passe maintenant à la partie culture, on va parler du Nouvel An au Japon. Donc au Japon, le Oshōgatsu ou Nouvel An est un moment très important. C'est l'occasion de se réunir en famille, de se relaxer et de reprendre des forces pour affronter l'année qui vient. C'est donc une période chargée de symboles, de rituels et de traditions, et même les rêves ne sont pas épargnés. Le mont Fuji, une aubergine et un faucon. Donc vous me direz que c'est une étrange association et je suis bien d'accord, mais l'explication est toute simple. Au Japon, si votre premier rêve de l'année comprend à la fois le mont Fuji, un faucon et une aubergine, alors cette année sera 100% heureuse et prospère. Une offre valable uniquement durant la nuit du 31 au 1er janvier, garantie satisfait ou remboursée par les dieux. Donc attention, pour que ça compte, il faut bien rêver des trois choses en même temps. Ce premier rêve est nommé Atsuyume. Il s'agit d'une croyance populaire qui remonterait à l'époque d'Edo. Donc pourquoi le Fuji, un faucon et une aubergine? À vrai dire, il existe plusieurs théories sur le sujet, mais une chose est sûre, le Hatsuyume a souvent été représenté dans l'art, notamment dans les estampes. Donc au Japon, il est d'usage de se lever extrêmement tôt le 1er janvier afin de contempler le tout premier lever de soleil de l'année. Les fêtards ne dormiront donc pas de la nuit, les plus sages mettront leur réveil et tous se rendront au temple pour y observer divers rituels. Prières, dégustation de saké, crémation des porte-bonheur de l'année dernière, puis achat de nouveaux porte-bonheur, etc. Il existe bien sûr d'autres traditions liées au Nouvel An, telles que le Fukubukuro, le Kadomatsu, le Oomisoka et le Nengajo. L'idée c'est de démarrer l'année sur de bonnes bases en ayant fait le ménage à la fois chez soi, mais aussi émotionnellement à son travail, afin de donner à nouveau le meilleur de soi-même pour l'année à venir. Donc, je vous parlais la dernière fois du traditionnel Bōnenkai, le dîner de fin d'année qui est très important dans le monde du travail. Eh bien, la nouvelle année commencera sans doute par un autre repas nommé Shinnenkai. Donc, contrairement au Bōnenkai, celui-ci sera très formel et incitera les employés à prendre leurs bonnes résolutions pour l'année 2023. Voilà, on va pouvoir s'écouter tout de suite une autre chanson, c'est Matakimi Banko wo Kikenakatta de Golden Bomber, et on viendra juste après pour la présentation du manga Babel the New Hakuden.
また今度って君 し、それにはそのためには大好きな君に番号を、君に番号を聞かなくちゃならない。それがどれだけ怖いことかお分かりいただけるであろうか。もし、もし断られたら、もし断られたら僕はもう死んでしまいたい。返しに出ちゃうよ。どうすればいいんだ、どうすればいいんだ。殺してくれ、もう一度僕を殺してくれよ。君は、君の美しい手で僕を。
Donc c'était Golden Bomber avec la chanson Matakimini Bango o Kikenakata. On passe maintenant à la présentation du manga Babel The New Hakanden. Donc c'est un seinen de genre action, fantastique, historique, mystère, surnaturel qui a été écrit par Ishikawa Yugo, traduit par Nathalie Lejeune et prépublié dans le Big Comic Superior. La version japonaise est parue en 2017 aux éditions Shogakukan avec 10 volumes qui terminent la série. Et la version française est parue le 22 mai 2024 aux éditions Crunchyroll, avec pour le moment 3 tomes de sortie. Vous pourrez retrouver Babel The New Hakanden dans le commerce au prix de 7,99€. L'âge conseillé pour le lire est de 14 ans et plus, la série est pour public averti à cause de la violence modérée, et il n'existe pas d'adaptation en animé. Donc le résumé de cette série, il s'agit d'une version revisitée du conte Nanso Satomi Hakanden, donc la légende des 8 chiens du clan Satomi Dawa, un roman épique japonais en 106 volumes de Kyokutei Bakin. Donc nous sommes en 1558 pendant l'ère Eiroku. Accablé par un mystérieux pouvoir à la suite de l'invasion de l'armée de Yamashita Sadakane, le clan Satomi souffre de la famine et la misère depuis de nombreuses années. Ce dernier envoie alors la princesse Fusei devant une divinité canine nommée Yatsufusa, afin de reconquérir sa protection. Mais le pouvoir du chien divin suffira-t-il à repousser le mal qui semble plus sombre et plus menaçant encore ? Voilà, donc je rappelle que la série Babel The New Hakanden est à retrouver aux éditions Crunchyroll, avec pour le moment 3 tomes de sortie sur 10 qui terminent la série au Japon. On va s'écouter tout de suite une autre chanson, c'est Once Again de Gong Bo Kyung, et on reviendra juste après pour une actualité au Japon.
Do we start a
Donc c'était Gong Bokyong avec la chanson Once Again. On passe maintenant à l'actualité au Japon. Donc le mont Fuji, symbole du Japon, est toujours dénué de manteaux neigeux ce lundi 28 octobre. Comme jamais à cette date depuis le début des relevés il y a 130 ans, a annoncé l'agence météorologique Nippon. En moyenne, le sommet de ce volcan commence à être couvert de neige le 2 octobre. L'an dernier, les premiers flocons avaient été repérés le 5 octobre. Mais cette année, en raison des températures élevées, aucune chute de neige n'y a été observée, a rapporté Yutaka Katsuta, prévisionniste au service météorologique local de Kofu, dans le centre du Japon. Depuis le début des relevés en 1894, aucune première neige n'avait été relevée plus tard que le 26 octobre, un record mesuré deux fois en 1955 et en 2016. Les températures étaient élevées cet été, comme en septembre, ce qui a fait obstacle à tout air froid propice aux chutes de neige, explique donc Yutaka Katsuta. Selon lui, le changement climatique est possiblement responsable pour partie de ce retard. Le Japon a connu en 2024 son été le plus caniculaire depuis les premiers relevés, égalant le record de 2023. Le mont Fuji est recouvert de neige pendant la majeure partie de l'année, à l'exception de la période de juillet à septembre. Nombre de randonneurs choisissent alors de l'arpenter à la nuit tombée pour assister au lever du soleil depuis son sommet, à 3776 mètres d'altitude. La montagne la plus célèbre du Japon a toutefois connu cette saison une baisse significative de la fréquentation, conséquence de la décision des autorités nippones d'instaurer un droit d'entrée et un quota quotidien pour lutter contre le surtourisme. Cet été, le ministère de l'Environnement a recensé autour de 178 000 randonneurs contre environ 250 000 l'année précédente et avant la pandémie, soit une baisse de 14% entre début juillet et début septembre. Le mont Fuji se trouve à environ 2 heures de train du centre de Tokyo et peut être vu à des dizaines de kilomètres à la ronde, notamment depuis la capitale. Cette majestueuse montagne est un symbole du Japon immortalisé dans d'innombrables œuvres d'art, notamment la grande vague de Hokusai. Sa dernière éruption volcanique s'est produite il y a 3 siècles. Voilà pour la petite news au Japon. On va s'écouter tout de suite une autre chanson, c'est Journey de Goofy's Holiday, et on reviendra juste après pour finir l'émission avec une news musicale. We'll be right back. c'était Goofy's Holiday avec la chanson Journey. On va maintenant finir l'émission avec une news musicale. Donc la scène musicale japonaise se retrouve une nouvelle fois endeuillée. La chanteuse japonaise Sayuri est décédée le 20 septembre dernier, à seulement 28 ans. C'est par le biais d'un communiqué posté sur le compte Twitter de l'artiste, rédigé et publié par son mari Ama Arashi du groupe Misekai, que l'on a appris cette triste nouvelle. La chanteuse luttait contre une maladie chronique. Donc Sayuri a commencé sa carrière d'auteur-compositrice-interprète en 2015. L'année suivante lui donne une visibilité et une renommée au sein de la communauté internationale de fans d'animé, puisqu'elle a interprété le générique de fin du très célèbre Bokudake ga Inaimachi, où donc en français c'est paru sous le nom de Erased aux éditions Kiyun. Elle a ensuite chanté pour les animés Boku no Hero Academia, la saison 4, et Eden Zero notamment. Voilà, du coup pour terminer cette émission, on va pouvoir s'écouter la chanson Koukai no Huta de Sayuri, qui a servi de premier ending pour l'animé, pour la saison 4 de l'animé Boku no Hero Academia. Et donc, on va s'écouter ça pour terminer l'émission. Je vous rappelle que vous pourrez me retrouver vendredi prochain de 18h30 à 19h pour l'émission Cordialement Geek. Sinon, on se retrouvera lundi prochain de 21h à 22h comme d'habitude sur Neptune pour une nouvelle émission Asian Bubble. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine et à bientôt!
したい光がある君は今夜べもなく一人で黄色に立つ。もう後戻りできぬようにと